VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Bamako, 17h à Libreville. Bienvenue à notre journal. Guinée-Bissau, après deux semaines sans chef de gouvernement, le président José Mario Vaz a finalement nommé Bassirou Dia comme premier ministre. Il a été investi aujourd'hui au palais présidentiel dont les abords étaient protégés par un cordon policier. Mais les ministres du gouvernement coréen ne reconnaissent pas la décision du président Vaz de les démettre et ils ont passé la nuit dans leur bureau entourés par la police anti-émeute et la force de la CDAO. Le président Vaz dit vouloir s'appuyer sur une nouvelle majorité constituée des 41 députés du Parti de la Rénovation Sociale, PRS, et des 15 députés frondeurs du PAIGC, le parti au pouvoir, soit 56 sièges sur les 102 du Parlement. Mais le PAIGC, parti au pouvoir, promet de former un gouvernement parallèle si le chef de l'État ne revient pas sur sa décision. Plus de détails avec notre correspondant à Bissau, Noah Mankali.
Bassirou Dia, l'un des 15 membres expulsés du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert, PAGC, remplace ainsi Carlos Correa, l'un des vétérans de la lutte de libération nationale, qui a également été nommé à ce poste en octobre de l'année dernière après que la Cour suprême de justice, à travers son accord numéro 1/2015, est considéré inconstitutionnel le gouvernement d'alors dirigé par Bassirou Dia. Quelques heures avant la publication de ce décret présidentiel qui nomme Bassirou Dia, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert, PAGC, a mis en garde contre la possibilité que le pays ait deux gouvernements si le président de la République nommait un premier ministre inconstitutionnel. Bassirou Dia est né le 1er janvier 1973. Sa nomination a été dénoncée par le PAGC comme un coup d'État constitutionnel. Noah Mankali, Bissau, VOA Afrique.
Au Nigeria, des oléoducs de la compagnie pétrolière publique nigériane ont été sabotés dans le delta du Niger. Le groupe rebelle des Vengeurs du delta du Niger, qui milite pour une meilleure répartition des richesses de la région, a revendiqué l'attaque, la seconde en deux jours après une opération contre la société pétrolière américaine Chevron. Côte d'Ivoire, le conducteur d'un des véhicules ayant servi lors de l'attaque djihadiste qui a fait 19 morts le 13 mars à Grand Bassam, non loin d'Abidjan, a été arrêté et est en train d'être interrogé, selon un communiqué des sources sécuritaires ivoiriennes. Aucun détail sur le lieu de son arrestation. Et toujours en Côte d'Ivoire, la Cour suprême ivoirienne a rejeté le pourvoi en cassation de l'ex-première dame Simone Gbagbo, rendant ainsi définitive sa condamnation à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Eric Manirakiza.
C'est son avocat, maître Rodrigue Dadjé, qui a annoncé hier ce rejet de la Cour suprême ivoirienne. Il a dénoncé une décision politique, estimant qu'il y avait assez d'arguments juridiques pour annuler la condamnation de sa cliente. Simone Gbagbo, incarcérée à Abidjan, a été condamnée le 10 mars 2015 à 20 ans de réclusion pour attentat à la sûreté de l'État. Elle était jugée avec 78 co-accusés pour leur rôle dans la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait plus de 3000 morts en 5 mois. La défense de l'ex-première dame ivoirienne s'était alors pourvue en cassation, critiquant une procédure irrégulière qui devait être frappée de nullité. La haute cour ivoirienne a finalement rejeté ce recours. Par ailleurs, Mme Simone Gbagbo comparaîtra à partir du 31 mai à Abidjan devant les assises pour crimes contre l'humanité.
En France, le parquet national financier a demandé le renvoi en procès du fils du président équato-guinéen Théodorin Obiang dans l'affaire dite des biens mal acquis. Les précisions d'Arzuma Compaoré.
Si les juges d'instruction suivent l'avis du parquet et décident du renvoi, pour la première fois, un procès se tiendra en France et même en Europe d'un haut dignitaire d'un des pays au cœur de l'enquête dite des biens mal acquis. Se sont félicités dans un communiqué les associations Sherpa et Transparency International France qui avaient déposé plainte en 2007 et 2008 dans ce dossier. Théodorin Obiang a été mis en examen en mars 2014 par la justice française qui le soupçonne de s'être frauduleusement bâti un immense patrimoine en France. Celui-ci serait constitué notamment de voitures de luxe, d'un jet privé, d'un hôtel particulier à Paris, selon les instructions, des biens évalués à plusieurs centaines de millions d'euros. Le fils du président équato-guinéen avait demandé l'annulation de sa mise en examen, estimant que son statut de vice-président, chargé de la défense et de la sécurité de l'État en Guinée équatoriale, lui conférait l'immunité. La Cour de cassation l'avait débouté en décembre, estimant que les faits qui lui sont imputés avaient été commis à des fins personnelles.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Ouganda, 5 hommes ont été condamnés à la réclusion à perpétuité et 2 autres à 50 ans de prison pour le double attentat qui a fait 76 morts à Kampala en 2010. Les Chebab Somani affiliés à Al-Qaïda avaient revendiqué l'attaque. Idriss Fall.
Le juge Alphonse Owini Dolo de la haute cour de Kampala a annoncé sa décision. La peine de mort prévue par le code pénal ougandais n'a pas été appliquée depuis des années. Les 7 condamnés à perpétuité, dont le cerveau du groupe, ont été reconnus coupables hier de terrorisme, meurtre et tentative de meurtre. 5 autres hommes ont été acquittés et un 13e a été condamné à des travaux d'intérêt général pour des charges mineures. Le 11 juin 2010, en pleine retransmission de la finale de la Coupe du monde de football entre les Pays-Bas et l'Espagne, des engins explosifs avaient ravagé un bar et un restaurant de Kampala, faisant 76 morts. Ce double attentat était la première action d'envergure des Chebab en dehors de la Somalie. D'après ce groupe djihadiste, c'était en représailles au déploiement de troupes ougandaises en Somalie. Après Kampala, les Chebab ont perpétré une série d'attaques meurtrières au Kenya voisin, dont l'armée est aussi présente en Somalie.
Actualité hors d'Afrique maintenant au Japon. Le président des États-Unis, Barack Obama, a rendu aujourd'hui un hommage ému aux victimes de la première attaque nucléaire de l'histoire lors d'une visite historique à Hiroshima, serrant la main et prenant dans ses bras des survivants de la bombe atomique. Le chef de l'exécutif américain a saisi l'occasion de cette première visite d'un président des États-Unis en exercice dans cette ville anéantie le 6 août 1945 par une bombe nucléaire américaine pour appeler à un monde dénucléarisé. Nous connaissons la douleur de la guerre, ayons le courage ensemble de répandre la paix et de construire un monde sans armes nucléaires, a écrit le président Obama dans le livre d'or du port du Mémorial de la paix à Hiroshima. Avant cette visite, les dirigeants du G7, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Allemagne, Canada et Japon, ont fait ce matin de la croissance mondiale leur priorité urgente à l'issue d'un sommet de 2 jours au Japon. Michel Joseph.
Dans leur déclaration finale, les chefs d'État ou de gouvernement des 7 pays industrialisés ont déclaré que la croissance mondiale reste modérée et en dessous de son potentiel, tandis que persistent les risques d'une croissance faible. Ils ont ainsi réitéré leur engagement à utiliser tous les outils de politique économique, monétaire, budgétaire et structurelle, individuellement et collectivement. Les leaders du G7 ont également averti qu'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne à l'issue du référendum prévu le 23 juin serait un risque grave pour la croissance mondiale. Une telle sortie, ont-ils estimé, renverserait la tendance à une expansion du commerce mondial et de l'investissement, ainsi que des emplois qu'il crée. Par ailleurs, le G7 s'est dit préoccupé par l'aggravation des tensions maritimes en mer de Chine méridionale et orientale. Et ses dirigeants ont souligné l'importance fondamentale d'une gestion et d'un règlement pacifique des différends.
Course à la Maison-Blanche ici aux États-Unis. Côté républicain, le milliardaire Donald Trump a franchi jeudi un cap historique dans sa quête de la Maison-Blanche. Il dispose désormais de la majorité de délégués nécessaires pour l'investiture automatique du Parti républicain à la présidentielle de novembre. Chez Rubin Dorsil.
Donald Trump a passé la barre. C'est lui-même qui l'a annoncé lors d'une conférence de presse à Bismarck, dans le Dakota du Nord. Il a dépassé les 1237 délégués, une majorité qu'il était de toute façon assuré d'atteindre le 7 juin pendant les primaires républicaines dans plusieurs États, dont la Californie. Ce quasi-néophyte de la politique, âgé de 69 ans, a surmonté toute la concurrence d'au moins 16 autres candidats qui ont fini par jeter l'éponge. Sans concurrence depuis 3 semaines, il était de facto devenu le candidat officieux du parti pour la Maison-Blanche. Maintenant, M. Trump concentre sa puissance de feu sur Hillary Clinton, qu'il qualifie inlassablement de malhonnête. Mme Clinton ne devrait parvenir à l'investiture que le 7 juin, lors des scrutins démocrates de Californie et de 5 autres États. Bernie Sanders ne lâche pas et a même demandé un nouveau décompte dans le Kentucky, où Hillary Clinton l'avait emporté de justesse. Mais le résultat a été confirmé hier par les autorités locales.
Et pour terminer, la lutte contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie, les forces soutenues par les États-Unis dans ces deux pays progressent dans leur offensive contre le groupe djihadiste. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.